une histoire dans le rétroviseur.
L'image est connue bien au-delà du cercle des cinéphiles. Un escalier, la soldatesque qui tire sur une foule en panique et achève les blessés, une jeune mère abattue et le landau portant son bébé qui dévale l'escalier. Avec le cuirassé Potemkin, le cinéma soviétique vient de livrer en 1925 un premier chef-d'œuvre, en célébrant la révolution russe de 1905, dont le premier acte se déroula à Saint-Pétersbourg. Il y a 120 ans, le tsar de toutes les Russies a vacillé sur son trône. Pourquoi le pluriel Russie ? Parce qu'il y a la grande, la petite et la blanche. La grande, c'est Moscou, la petite, c'est Kiev, et la blanche recouvre un territoire imposant depuis les Pays-Baltes jusqu'à l'ouest de l'Ukraine. Le tsar a donc vacillé. Ivre de sa toute-puissance, méprisant le peuple, Nicolas II a refusé de s'engager sur la voie des réformes. C'est Dieu qui l'a mis là où il est, ce n'est pas le peuple qui le délogera. La Russie est une poudrière. La classe ouvrière, petite et naissante, commence lentement à s'organiser, tandis que dans les campagnes, les moujiks, qui n'ont guère profité de l'abolition du servage en 1861, se révoltent régulièrement. Il fallait une étincelle, elle vint de l'usine Poutilov de Saint-Pétersbourg. En décembre 1904, la direction licencie quatre ouvriers. Des fortes têtes, membres d'une assemblée ouvrière, sorte d'amicale a priori inoffensive, financée par le pouvoir et laissée entre les mains d'un prêtre orthodoxe, Georges Gaponnet. Son rôle, encadrer la classe ouvrière et éviter qu'elle ne tombe dans les bras des révolutionnaires. Problème, Gaponnet ne resta pas longtemps la créature du régime. Intelligent, ambitieux, mystique, voire exalté, Gaponnet va en réalité transformer l'amicale en outil d'émancipation. En janvier, les travailleurs de cette zone industrielle imposante font grève, malmènent le contremaître responsable des licenciements. La direction décide alors de réintégrer trois des quatre licenciés, mais c'est trop tard. À la lutte contre l'arbitraire s'ajoutent des revendications économiques. Le 7 janvier, on frôle les 150 000 grévistes. Près de 400 usines sont touchées. C'est un crime de lèse-majesté puisque le droit de grève est interdit. Survint alors le dimanche rouge. Nicolas II écrit dans son journal « 9 janvier, dimanche, journée pénible. Journée tragique aurait été plus appropriée. Ce 9 janvier, les manifestants endimanchés se rendent en quatre défilés sur la place du palais. Les drapeaux révolutionnaires ont été proscrits. On voit des portraits du tsar, des icônes, des bannières religieuses. Pour beaucoup de Russes, le tsar est là pour les protéger. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'on lui cache la vérité sur la misère du peuple. C'est pourquoi ils ont décidé de porter une pétition à Nicolas II. « Nous sommes dans la misère, on nous oppresse par un travail au-dessus de nos forces, on nous insulte, les gens ne nous reconnaissent pas comme des êtres humains, on nous traite comme des esclaves qui doivent subir leur sort amer et se taire. Nous n'avons plus de force, sire, notre patience est à bout. Le moment terrible est venu pour nous, où mieux vaut la mort que la poursuite de cette torture insupportable. » La mort. Ils seront entendus. Un des quatre cortèges, celui de Gaponnet, est bloqué par l'armée. L'officier exige la dispersion, mais sa voix est couverte par le chant des cantiques. L'armée ouvre le feu sur la foule désarmée. Bientôt, les trois autres cortèges subissent le même sort. Les soldats tirent et les cosaques sabrent tous ceux qui passent à leur portée. Quelques barricades sont érigées, mais ne peuvent rien contre la brutalité policière. Au soir de ce pénible 9 janvier, on dénombre officiellement 130 tués et 299 blessés. Un seul militaire est mort, victime de ses propres troupes. Bilan peu fiable, car des centaines de corps ont été jetés dans des fosses communes. On est plus proche des 2000 victimes. Oui, le dimanche rouge fut un vrai carnage. Le 10 janvier, l'association ouvrière dirigée par Gaponnet est dissoute et ses dirigeants sont arrêtés. Gaponnet, comme tant d'autres révolutionnaires, est entré en clandestinité, hébergé par l'écrivain Maxime Gorki. La répression ne met pas fin à la révolte. Partout dans le pays, ouvriers, paysans, soldats s'organisent en conseil, en soviet. En octobre 1905, poussé par certains membres de son entourage, Nicolas II décide de lâcher du lest. Le manifeste sur le perfectionnement de l'ordre de l'État promet la liberté de culte, la liberté de parole, la liberté de réunion, la liberté d'association, le suffrage universel masculin et la création d'une Douma, une sorte d'assemblée nationale dont on espère qu'elle ne soit pas une assemblée croupion. En novembre 1905, il y a 120 ans, le calme règne de nouveau en Russie. Mais la vieille taupe continue son chemin.
Alternant FM.